Ralph Waldo Emerson, trois essais, Amitié, Amour, Art. Traduit de l'anglais par E.D., édition Mayenne, imprimerie Poirier Béalut, 1897. Texte d'introduction. Ces essais sont traduits presque mot à mot. Et les tournures anglaises, souvent même particulières à Emerson, sont soigneusement conservées, ainsi que l'enchaînement plus ou moins suivi des idées. Il en résulte une certaine bizarrerie de style et de composition qui pourra étonner le lecteur, mais qui lui donnera un reflet plus exact de l'originalité si personnelle de l'auteur, E.D. Par un long noviciat, par l'épreuve de beaucoup de pensées, nous devons nous élever, non dans la faveur d'une heure, mais habituellement, à une abstraction, un idéalisme que dans leurs années les plus sages, même parmi les hommes les plus sages, combien peu atteignent. Cependant, jusqu'à ce que nous soyons ainsi bénis, nous ne connaissons pas la vraie divinité de la contemplation, ni la toute suffisante puissance de la conscience de soi, ni ne pouvons-nous solennellement nous retirer dans ce sanctuaire des sanctuaires de nos âmes, où nous apprenons et sentons combien notre nature est capable de l'existence d'un Dieu. Bulwer, Rienzi. Essai numéro 1. Amitié. Nous avons beaucoup plus de bienveillance qu'on n'en a jamais parlé. Malgré tout l'égoïsme qui transit le monde comme un vent d'est, toute la famille humaine est baignée d'un élément d'amour semblable au subtil éther. Combien de personnes rencontrons-nous dans les maisons auxquels nous parlons à peine, que cependant nous honorons et qui nous honorent. Combien nous envoyons dans la rue, ou près desquels nous siégeons à l'église, et avec lesquels, en silence, nous jouissons vivement d'être. Lis le langage de ces regards errants, le cœur le comprend. L'effet de l'indulgence de cette affection humaine est une certaine hilarité cordiale. En poésie et dans le discours ordinaire, les émotions de bienveillance et de joie que nous ressentons à l'égard les uns des autres sont parallèles aux effets matériels du feu. Aussi rapides et beaucoup plus rapides, plus actifs et plus réjouissants sont ces beaux rayonnements intimes. Du premier degré de l'amour passionné au dernier de la bonne volonté, ils font la saveur, le charme, la douceur de la vie. Notre puissance intellectuelle et active croît avec notre affection. L'homme instruit écrit, et toutes ses années de méditation ne lui fournissent ni une bonne pensée, ni une heureuse expression. Mais s'il doit écrire une lettre à un ami, aussitôt des troupeaux de douces pensées se revêtent, plein ses deux mains, d'expressions choisies. Vois, dans toute maison où la vertu et le respect de soi-même habitent, la palpitation que donne l'arrivée d'un étranger. Un malaise qui tient du plaisir et de la douleur envahit tous les cœurs de la maisonnée. Son arrivée fait presque peur aux bonnes âmes qui veulent lui souhaiter la bienvenue. La maison est époussetée. Toutes les choses volent à leur place. Le vieux manteau est changé contre un neuf. Et il faut dresser un dîner si possible. De l'étranger, il n'a été fait que de bons rapports. Le bien et le nouveau seuls nous sont rapportés. Il nous représente l'humanité. Il est ce que nous voulons. Nous l'étant imaginé et l'ayant revêtu, nous nous demandons comment nous mettre en rapport par la conversation et l'action avec un tel homme. Et la crainte agite nos pensées. La même idée élève notre conversation avec lui. Nous parlons mieux qu'à l'ordinaire. Nous avons l'imagination la plus agile, une mémoire plus riche, et le démon muet nous laisse pour un temps. Pendant de longues heures, nous pouvons dérouler une série de communications sincères et gracieuses, tirées de la plus vieille et la plus secrète expérience, tellement que nos parents et connaissances sont vivement surpris de ses facultés inhabituelles. Mais aussitôt que l'étranger commence à imposer ses partialités, ses définitions ou ses défauts, tout est fini. Il a entendu, pour la première et la dernière fois, le meilleur qu'il entendra jamais de nous. Ce n'est plus un étranger, car la vulgarité, l'ignorance, les méprises sont de vieilles connaissances. Maintenant, quand il viendra, il pourra obtenir l'ordre, la grande tenue et le dîner, mais plus le battement du cœur, ni les communications de l'âme. Qu'y a-t-il d'aussi charmant que ces jets d'affection qui vous font naître à nouveau dans un monde inconnu? Quoi d'aussi délicieux que l'exacte et ferme rencontre de deux âmes dans une pensée ou une émotion? Qu'elles sont ravissantes à leur approche de ce cœur palpitant, la marche et la forme de l'abandon et du vrai. Du moment où nous laissons battre nos cœurs, la terre est métamorphosée. Il n'y a plus d'hiver ni de nuit. Toutes les tragédies, tous les ennuis s'évanouissent, tous les devoirs même, car la beauté toute radieuse qui s'échange d'âme à âme remplit à elle seule l'avenir éternel. Si l'âme est sûre qu'elle peut rejoindre son ami quelque part dans l'univers, elle sera contente et joyeuse pendant 1000 années de solitude. Je me suis éveillée ce matin en rendant grâce pour mes amis anciens et nouveaux. N'appellerais-je pas Dieu le beau qui se montre ainsi journellement à moi dans ses dons? Je blâme la société. J'embrasse la solitude et pourtant je ne suis pas assez ingrat pour ne pas voir le bien, le beau et le noble qui de temps à autre ouvre la grille de mon jardin. Celui qui m'entend et me comprend devient mien pour toujours et la nature est prodigue de ses joies. Ainsi, nous tissons de nouvelles fibres sociales. Et comme la succession de beaucoup de pensées voit toujours leur établissement, nous allons tout à l'heure nous élever à un monde nouveau sorti de nos mains, et nous ne serons plus des étrangers et des pèlerins dans un monde traditionnel. Mes amis sont venus à moi sans que je les aie cherchés. Dieu me les a donnés. Par le droit le plus ancien, par la divine affinité de la vertu avec elle-même, je les trouve, ou plutôt non pas moi, mais la divinité qui est en moi et en eux, tourne en dérision et résout les barrières qu'élèvent le caractère individuel, la parenté, l'âge, le sexe ou la circonstance. Toutes choses sur lesquelles Elle ferme habituellement les yeux. Que de remerciements ne vous dois-je pas, ô précieux ami, qui me faites découvrir de nouvelles et nobles profondeurs dans la nature, et qui dilatent le sens de toutes mes pensées. Ah, antique et jeune poésie du premier barde et du dernier poète, chant ininterrompu, hymne, ode et idylle, poésie encore inachevée, chant éternel et silencieux des muses. Pourrais-tu maintenant te séparer de moi ou répondre moins haut quand j'appelle? Je ne sais, mais je ne crains pas, car notre liaison est si pure que la simple affinité la maintient. Et le génie de ma vie étant social, la même affinité exercera son énergie en quelque lieu que je sois, sur quiconque est aussi noble que ces hommes et ces femmes. Je confesse une extrême sensibilité naturelle à cet égard. Il m'est presque dangereux d'exprimer le doux poison du breuvage dédaigné des affections. La présence d'une nouvelle personne est un grand événement pour moi et chasse mon sommeil. J'ai souvent eu de belles passions qui m'ont fait passer des heures délicieuses. Mais leur joie finit avec la journée et ne produit aucun fruit. Une pensée n'en est pas sortie et ma manière d'agir s'est à peine modifiée. Je dois concevoir de l'orgueil des perfections de mon amie comme si elles étaient miennes. Et un droit de propriété sur ses vertus. J'entends sa louange avec autant de chaleur qu'un fiancé qui entend applaudir sa bien-aimée. Nous estimons par-dessus tout la conscience de notre amie. Sa bonté semble meilleure que la nôtre, sa nature plus belle et ses tentations moindres. L'imagination embellit tout ce qui lui appartient, son nom, sa silhouette, sa mise, ses livres et ses instruments. Notre propre pensée retentit, fraîche et plus ample de sa bouche. Cependant, le systole et le diastole du cœur dans l'amitié ne sont pas sans analogie avec le flux et le reflux de l'amour. L'amitié, comme l'immortalité de l'âme, est trop belle pour qu'on y croie. Dans l'amour, en regardant une jeune fille, l'homme sait à moitié qu'elle n'est pas réellement ce qu'il adore. Et, aux heures dorées de l'amitié, nous sommes surpris par des ombres de soupçons et d'incrédulité. Nous doutons de pouvoir donner à notre héros la valeur qui éclate en lui. Et ensuite, nous adorons la forme à laquelle nous avons attribué cette habitation divine. À vrai dire, l'âme ne respecte pas les hommes autant qu'elle se respecte. Sciemment, tout le monde pose la même condition d'éloignement. Pourquoi craignons-nous de refroidir notre amitié en exploitant les fondations métaphysiques de ce temple élyséen? Ne suis-je pas aussi vrai que les choses que je vois? Si je le suis, je ne crains pas de les reconnaître pour ce qu'elles sont. Leur essence n'est pas moindre que leur apparence, encore qu'elle nécessite de plus fins organes pour être saisie. La racine de la plante n'est pas invisible à la science, quoique pour des chapelets et des guirlandes, nous en brisions la tige. Et je veux hasarder l'expression d'un fait cru au milieu de ces aimables rêveries, même s'il doit produire l'effet d'un crâne égyptien dans notre banquet. Un homme qui ne fait qu'un avec ses pensées a une magnifique conception de lui-même. Il a conscience d'un succès général, bien cacheté par des insuccès particuliers. Aucun avantage, aucun pouvoir, aucun or ni aucune force ne peuvent lutter avec lui. Je ne peux pas choisir, mais je me fie plus à ma pauvreté qu'à ta richesse. Je ne peux pas rendre ton sentiment intime égal au mien. Seulement, une étoile étincelle et la terre a une clarté douce comme un rayon de lune. J'entends le panégyrique des talents admirables et du sang-froid de celui que tu loues. Mais je sens bien que tous ces manteaux de pourpre ne me le feront pas aimer s'il n'est pas, après tout, un pauvre grec comme moi. Je ne peux pas nier, ô ami, que l'ombre immense du phénoménal te comprenne aussi dans son immensité bigarrée. Toi aussi, en comparaison de qui tout est ombre. Tu n'es pas un être comme la vérité ou comme la justice. Tu n'es pas mon âme, mais un tableau et une effigie de tout cela. Tu es venu à moi il y a peu de temps, et déjà tu saisis ton chapeau et ton manteau. N'est-ce pas que l'âme laisse sortir les amis, comme l'arbre les feuilles qui vont tomber pour la germination de nouveaux bourgeons? La loi de nature est changement éternel. L'électricité positive appelle la négative. L'âme s'environne d'amis pour acquérir une plus profonde connaissance d'elle-même et une plus grande solitude. Et elle se retire un temps pour exalter son nouvel état d'âme et son nouveau monde. Cette loi s'accomplit tout le long de l'histoire de nos amitiés. L'instinct de l'affection ravive en nous un espoir d'union avec nos frères, et le retour de l'esprit d'isolement nous rappelle de ces réunions aimables et bienfaisantes. Ainsi, tout homme passe sa vie à la recherche de l'amitié, et s'il laissait parler son vrai sentiment, il écrirait une lettre ainsi conçue à tout nouveau candidat pour elle. Cher ami, si j'étais sûre de toi, de ta capacité et d'allier mon humeur à la tienne, je ne m'occuperais plus jamais des causes futiles de tes allées et venues. Je ne suis pas très sage, mon caractère est très vulnérable et je respecte ton génie. Il est pour moi comme encore insondable. Jusqu'ici, je n'ose présumer en toi une parfaite connaissance de moi, et telle, tu m'es un délicieux tourment, à toi toujours ou jamais. Toutefois, ces joies inquiètes et ces douleurs subtiles sont trop délicates pour la vie. Il ne faut pas s'y abandonner. Elles ne tissent que des toiles d'araignée. Nos amitiés se hâtent à tirer d'étroites et pauvres conclusions, parce que nous en avons fait un tissu de rêves et de mensonges, au lieu de la fibre immortelle du cœur humain. Les lois de l'amitié sont austères et éternelles, intimement liées à celles de la nature et de la morale. Mais nous n'avons eu en vue qu'un prompt et petit profit pour en aspirer une douceur immédiate. Nous arrachons le fruit le plus tardif du jardin divin que beaucoup d'étés et d'hivers doivent encore mûrir. Nous ne recherchons pas saintement notre ami, mais avec une passion égoïste pour nous l'approprier. En vain, nous sommes armés d'antagonisme des pieds à la tête, lequel, aussitôt que nous nous rencontrons, commence à se mouvoir et convertit toute poésie en prose. On descend presque toujours pour se rencontrer. Toute association est un compromis, et ce qui est pire, la simple floraison et l'arôme de chaque belle nature disparaît au moment où elle s'aborde. Quel désappointement perpétuel dans la société actuelle, même des plus vertueux et des plus richement doués. Après une entrevue obtenue par une longue préméditation, nous sommes tourmentés par des froissements, de soudaines et importunes apathies, des épilepsies morales, dans l'ardeur de l'amitié et de la pensée. Nos forces nous trompent et la solitude devient un soulagement. Je devrais être à la hauteur de toute relation. Le nombre de mes amis ne signifie rien, ni le plaisir que me procure leur conversation, s'il y en a un que je n'atteins pas. Si je me suis retirée inférieure d'un débat, la joie que je trouve dans tous les autres devient mesquine et lâche. Je me haïrais si alors je me faisais asile de mes autres amis. Le vaillant guerrier, famé par ses combats, après 100 victoires une fois un vainqueur, est effacé du livre de gloire et tout le reste s'oublie pour lequel il a travaillé. Notre impatience est ainsi brusquement châtiée. La timidité et l'apathie sont une écale épaisse et flexible qui protège l'organisation délicate d'une maturité trop précoce. Elle serait perdue si elle se connaissait avant qu'aucune des âmes les meilleures soit encore assez mûre pour la connaître et l'aimer. Respecte la lenteur de la nature qui laisse durcir le rubis pendant 1 million d'années et dont le travail éternel manie les Alpes et les Andes. Il n'est pas de ciel pour prix de la témérité. L'amour, qui est l'essence de Dieu, n'est pas une gracieuse folie, mais la valeur même, la dignité, la force, la richesse, le droit, la sagesse, la grandeur et la gloire de l'homme. N'ayons pas ces questions enfantines dans nos regards, mais la grandeur la plus austère. Approchons notre ami avec une foi audacieuse dans la loyauté de son cœur, dans la profondeur impossible à violer de son âme. L'attraction de ce sujet n'est pas faite pour qu'on y résiste. Et je laisse de côté pour le moment la question de l'avantage social pour ne parler que de ses rapports sacrés et sélects, en quelque sorte absolus, qui laissent même le langage de l'amour suspect et ordinaire, tant ils sont purs, et il n'en est pas de plus divin. Je ne veux pas traiter délicatement de l'amitié, mais avec le courage le plus âpre. Quand elle est réelle, elle n'est pas de verre ni de glace, mais ce qu'il y a de plus solide au monde. Car maintenant, après tant de siècles d'expérience, que savons-nous de la nature et de nous-mêmes? L'homme n'a pas fait un pas vers la solution du problème de sa destinée, et dans une folle condamnation gît l'univers entier. Mais la sincérité si douce, de joie et de paix, que je retire de l'alliance avec l'âme de mon frère, est la noix même dont toute la nature et toute la pensée ne sont que la coquille. Heureuse est la maison qui abrite un ami. Elle pourrait être ornée comme une maison de fête ou un arc de triomphe pour le recevoir un seul jour. Plus heureuse encore s'il reconnaît la solennité de cette relation et honore sa loi. Celui qui aspire à ce pacte s'avance comme un Olympien aux grands jeux où concourent les premiers-nés du monde. Il se propose pour des combats où le temps, le besoin et le danger sont en lice. Et celui-là seul est vainqueur, qui a assez de foi dans son caractère pour préserver sa délicate beauté de leurs avaries. Les dons de la fortune, présents ou absents, tout le succès du combat dépend de la noblesse intrinsèque et du mépris des futilités. L'amitié a deux éléments, chacun si indispensable que je ne peux découvrir de supériorité à aucun. Il n'y a pas de raison pour en nommer un avant l'autre. L'un est vérité. Un ami est quelqu'un avec qui je peux être sincère. Je peux penser tout haut devant lui. Je suis arrivée finalement en présence d'un homme si vrai que je peux même laisser tomber ses derniers vêtements de dissimulation, de courtoisie et ses seconds mouvements dont l'homme ne se dépouille jamais et me rencontrer avec lui aussi simplement et aussi absolument qu'un atome chimique en rencontre un autre. La sincérité, comme les diadèmes et l'autorité, est le luxe permis seulement aux plus haut placés, lesquels peuvent avoir leur franc-parler, n'ayant personne au-dessus d'eux à courtiser, ni à qui se conformer. Chaque homme seul est sincère. Mais, si quelqu'un s'avance, l'hypocrisie intervient. Nous esquivons l'approche de notre semblable par des compliments, des bavardages, des amusements, des affaires. Nous lui voilons notre pensée sous des replis sans nom. J'ai connu un homme qui, sous l'empire d'une frénésie religieuse, rejetant ses draperies et négligeant tout compliment et lieu commun, parlait à la conscience de chaque personne qu'il rencontrait, et cela avec une grande vue intérieure et une grande beauté. On lui a résisté au commencement et tout le monde était d'accord qu'il était fou. Mais, persistant quelque temps dans cette manière, ce dont à vrai dire il ne pouvait s'empêcher, il eut l'avantage de parvenir à des rapports vrais avec tous les hommes de sa connaissance. Nul n'aurait pensé à lui parler déloyalement ou à le chasser par des babils de salon, mais il contraignait tout le monde à une égale franchise et à montrer quel était son amour pour la nature, sa poésie et son symbole de vérité. La plupart du temps, la société ne nous montre pas son front mais son dos. Revenir à de vraies relations dans un siècle perfide équivaut à un accès de folie, n'est-ce pas? Nous pouvons rarement aller tout droit. Presque tout homme que nous rencontrons requiert des civilités et des flatteries. Il a quelques renommées, quelques talents, quelques caprices religieux ou philanthropiques en tête, lequel ne doit pas être mis en question et gâte la conversation. Mais un ami est un homme sain d'esprit qui n'exerce pas mon ingénuité, mais moi-même. Il me reçoit sans rien stipuler de moi. Un ami est donc une sorte de paradoxe. Moi, qui suis solitaire et qui ne vois rien dans la nature dont je puisse m'affirmer l'existence avec une preuve exacte, je considère maintenant l'image de mon être dans toute sa hauteur, sa variété, sa délicatesse, en une forme étrangère, de sorte qu'un ami peut être considéré comme le chef-d'œuvre de la nature. L'autre élément de l'amitié, c'est la tendresse. Nous sommes retenus les uns aux autres par toutes sortes de liens, par le sang, l'orgueil, la crainte, l'espoir, le gain, l'envie, la haine, l'admiration, et toutes circonstances, tout ainsi nous vêtit, mais nous pouvons à peine croire que tant de caractères puissent subsister chez un autre au point de nous attirer par amour. Se peut-il qu'un autre soit si béni et nous si pur que nous puissions lui offrir notre tendresse. Quand quelqu'un me devient cher, j'ai atteint le but. On a très peu écrit sur cette force, et cependant, il y a un texte que je ne peux m'empêcher de me rappeler. Mon auteur dit: je me suis offert timidement et aveuglément à ceux auxquels j'appartiens pour atteindre le but que je me propose. Et je me donne moins à celui auquel je suis le plus dévoué. Je voudrais que l'amitié eût des pieds, ainsi que des yeux et de l'éloquence. Il faut qu'elle se pose sur la terre avant de voltiger dans les régions étoilées. Je voudrais qu'elle soit un peu citadine avant d'être tout à fait chérubin. Nous blâmons le citadin parce qu'il fait de l'amour une marchandise. C'est un échange de présents, d'emprunts utiles, un bon voisinage. Il veille les malades, tient le cordon du poêle aux obsèques et perd complètement de vue les délicatesses et la noblesse de l'intimité. Mais, quoique nous ne puissions pas trouver le Dieu sous ce déguisement de vivandier, d'un autre côté, nous ne pardonnons pas au poète de filer son lin trop fin et de ne pas substancier sa fiction par les vertus communes de justice, de ponctualité, de fidélité et de pitié. Je hais la prostitution du nom de l'amitié quand il signifie des alliances à la mode et mondaines. Je préfère de beaucoup accompagner les garçons de ferme et des états meurs à l'amitié pimpante et parfumée qui célèbre ses rendez-vous par des étalages frivoles, des courses en voiture et des dîners aux meilleurs hôtels. Le but de l'amitié est le plus étroit et le plus simple commerce d'idées, de sentiments qui puissent être atteints. Plus étroit qu'aucun de ceux dont nous avons l'expérience. L'aide et la consolation par les chemins et les traversées de la vie et de l'amour. Il est bon pour les jours sereins, les présents gracieux et les jolies promenades, mais aussi pour les chemins raboteux et la nourriture grossière, les naufrages, la pauvreté et la persécution. Il va de pair avec les échappées de génie et l'extase religieuse. Nous devons nous ennoblir les besoins et les devoirs journaliers de la vie l'un à l'autre et l'embellir par le courage, la sagesse et l'unité. Ce ne devrait jamais tomber dans quelque chose d'ordinaire et d'établi, mais être toujours alerte, inventif, et ajouter une rime et une raison aux occupations basses et pénibles. On peut dire que l'amitié demande des natures si rares et si magnifiques, chacune si bien trempée, si heureusement adaptée et en même temps placée dans de telles conditions, car même pour l'amitié, a dit un poète, il faut des individus assortis, que sa satisfaction est très rarement assurée. Certains savants dans cette science du cœur disent qu'elle ne peut subsister dans sa perfection à plus de deux. Je ne suis pas tout à fait aussi rigoureux dans mes conditions, peut-être parce que je n'ai jamais eu de relations si élevées que d'autres. Je satisfais plus mon imagination avec un cercle divin d'hommes et de femmes différemment alliés les uns aux autres et entre lesquels subsiste une intelligence sublime. Mais je reconnais que cette loi de 1 à 1 est absolue pour la conversation, qui est l'exercice et la consommation de l'amitié. Ne mêlons pas trop les eaux. Les meilleurs se mêlent aussi mal que le bon et le mauvais. Vous aurez des entretiens utiles et réjouissants à différents moments avec deux hommes différents. Mais allez tous les trois ensemble et vous n'aurez pas un mot neuf partant du cœur. Deux peuvent parler et un peut écouter, mais trois ne peuvent pas prendre part à une conversation de nature sincère et pénétrante. En bonne société, il n'y a jamais de ces conversations entre deux personnes à travers la table qui ont lieu quand vous les laissez seuls. Les individus perdent leur égotisme qui est exactement extensible aux diverses consciences présentes. Les faiblesses d'amis à amis, les folles tendresses de frère à sœur, de mari à femme, ne sont pas à propos là, mais tout autre chose. Celui-là seul peut alors parler, qui peut voguer sur la pensée commune de l'assemblée et n'est pas étroitement limité par la sienne propre. Alors, cette convention que le bon sens demande détruit la sainte liberté de la conversation intime qui réclame la fusion absolue de deux âmes en une seule. Il n'y a pas deux hommes qui, laissés seuls l'un à l'autre, n'entrent dans de plus simples rapports. Cependant, c'est l'affinité qui décide lesquels deux doivent s'entretenir. Des hommes qui n'ont aucun rapport entre eux se donnent peu de joie l'un à l'autre. Ils ne soupçonneront jamais les pouvoirs latents de chacun. Nous parlons quelquefois d'un grand talent de conversation, comme si c'était une qualité permanente chez quelques-uns. La conversation est une liaison passagère, rien de plus. Un homme qui a la réputation d'avoir de l'esprit et de l'éloquence ne peut pas pour cela dire un mot à son cousin ou à son oncle. On lui reproche son silence avec autant de raison qu'on reprocherait à un cadran solaire de ne rien marquer dans l'ombre. Au soleil, il marquera l'heure. Parmi ceux qui savourent ses pensées, il retrouvera sa voix. L'amitié demande ce rare milieu entre la ressemblance et la dissemblance, lequel pique chacun par le mélange de pouvoir et de consentement vis-à-vis l'un de l'autre. Plutôt être seul au bout du monde que de voir mon ami surpasser d'un mot ou d'un regard sa réelle sympathie. Je suis également désappointée par l'antagonisme et par la complaisance, qu'il ne cesse pas un instant d'être lui-même. La seule joie que j'ai de ce qu'il est mien est que le non-mien est mien. Je hais quand je cherche un appui viril ou au moins une résistance virile, trouver une concession molle. Mieux vaut être une ortie auprès de votre ami que son écho. La condition que la haute amitié demande est de pouvoir s'en passer. Ce saint office exige des personnages majestueux et sublimes. Il faut d'abord qu'il y ait deux êtres vrais, avant qu'il puisse y avoir une association vraie. Il faut des notes justes pour un bel accord, que ce soit une alliance de deux vastes, formidables natures qui se sont mutuellement considérées, mutuellement craintes, avant de reconnaître la profonde identité qui les unit sous ces dissemblances. Celui-là seul est digne d'une telle association qui est magnanime, qui est sûr que la grandeur et la bonté sont un gain, et qui n'est pas prompt à s'immiscer dans sa destinée, qu'il ne s'immisce pas. Laissez au diamant ses siècles pour se produire, et n'espérez pas accélérer les naissances de l'éternel. L'amitié veut un traitement religieux. Nous parlons de choisir nos amis, mais les amis s'élisent d'eux-mêmes. La vénération joue un grand rôle. Traitez votre ami comme un spectacle. Naturellement, il a des mérites qui ne sont pas les vôtres et que vous ne pouvez honorer s'il vous faut à tout prix l'étreindre dans vos murs. Tenez-vous à l'écart. Faites place à ses mérites, qu'il s'élève et se déploie. Êtes-vous l'ami des boutons de votre ami ou de sa pensée? Vis-à-vis d'un noble cœur, vous serez encore un étranger dans mille détails que vous pourrez déjà l'approcher sur le terrain le plus sain. Laissez aux petites pensionnaires et aux collégiens de regarder un ami comme une propriété et de vouloir aspirer un agrément insuffisant et destructeur au lieu du plus noble bienfait. Achetons notre entrée dans cette association par une longue épreuve. Pourquoi dépouillerions-nous de nobles et belles âmes de leur caractère sacré en forçant la porte? Pourquoi vouloir brusquer des relations personnelles avec votre ami? Pourquoi aller chez lui ou connaître sa mère, ses frères ou ses sœurs? Pourquoi recevoir sa visite? Sont-ce des choses nécessaires à notre pacte? Oublions ses attouchements et ses flatteries. Laissez-le être pour moi un esprit, un message, un sentiment, une sincérité, un éclair de ses yeux, je veux, mais non des nouvelles ou du pot-au-feu. Je peux obtenir de la politique et des causeries de compassion à meilleur marché. La société de mon ami ne doit-elle pas m'être poétique, pure, universelle et majestueuse comme la nature elle-même? Devrais-je sentir que notre lien est profane en comparaison de la nuée qui dort là-haut dans l'horizon, ou de l'herbe onduleuse qui divise le ruisseau. Ne l'avilissons pas, mais élevons-le à cet étendard. Ce grand œil défiant, cette dédaigneuse beauté de son air et de ses manières. Ne te pique pas de les adoucir en ton ami, mais fortifie-les plutôt et les rehausse. Honore ses supériorités, ne lui en souhaite pas moins en pensée, mais amasse-les et les révèle toutes. Garde-le comme ta contrepartie, qu'il te soit à jamais une sorte de bel ennemi, indomptable, religieusement révéré, et non un objet commode et vulgaire, qui doit bientôt être dépassé et jeté à l'écart. Les nuances de l'opale et les feux du diamant ne peuvent se voir s'ils sont trop près des yeux. À mon ami, j'écris une lettre, et de lui j'en reçois une. Cela vous semble peu de choses. Cela me suffit. C'est un don spirituel, digne à lui de donner et à moi de recevoir. Il ne profane personne. Dans ses lignes ardentes, le cœur se confie comme il ne peut le faire en parole. Et il exhale une prophétie d'existence plus divine que toutes les annales de l'héroïsme n'en ont encore vu s'accomplir. Respectez assez les saintes lois de cette association pour ne pas nuire à la perfection de sa fleur par votre impatience à la voir souffrir. Il faut commencer par être nous-mêmes. Il y a au moins cette satisfaction dans le crime, selon le proverbe latin, vous pouvez parler à votre complice en termes égaux. Crimen quos inquinat aequat. À ceux que nous admirons, aimons, d'abord, nous ne le pouvons pas. Cependant, le moindre défaut de calme gâte à mes yeux tous les rapports. Il ne peut jamais y avoir de paix profonde entre deux esprits, jamais de respect mutuel, jusqu'à ce que dans leur dialogue, chacun représente le monde entier. Une chose aussi grande que l'amitié, laissez-nous l'accomplir avec toute la grandeur d'esprit qui nous est possible. Soyons silencieux et que nous puissions entendre le chuchotement des dieux. N'intervenons pas. Qui vous a établi pour chercher ce qu'on doit dire aux âmes choisies ou comment leur dire quoi que ce soit? Peu importe avec quelle ingéniosité, quelle grâce ni quelle douceur. Les degrés de la folie et de la sagesse sont innombrables. Et pour vous, parler, c'est être frivole. Attends, et ton cœur parlera. Attendez jusqu'à ce que le nécessaire et l'éternel vous subjuguent, jusqu'à ce que le jour et la nuit tirent parti de vos lèvres. La seule récompense de la vertu, c'est la vertu. Le seul moyen d'avoir un ami, c'est d'en être un. Vous n'approcherez pas plus un homme en entrant chez lui. Si elle est dissemblable, son âme n'enfuira que plus vite, et vous ne surprendrez jamais un éclair de son regard. Nous voyons le noble de loin et il se répercute. Pourquoi empiéter sur ses raisonnements? Tard, très tard, nous découvrons qu'aucun arrangement, aucune introduction, aucun usage ni aucune habitude sociale ne servent à établir de telles relations entre nous et ceux qui nous les font désirer. Mais seulement le même degré d'élévation de nature en nous et en eux. Alors, comme l'eau rejoint l'eau, nous nous rejoindrons. Et si nous ne les rejoignons pas alors, ils ne nous manqueront pas, car nous sommes presque eux-mêmes. Au fond, l'affection n'est que le reflet de la valeur personnelle d'un homme sur un autre. Des amis ont quelquefois échangé leur nom, comme s'ils avaient voulu exprimer qu'en son ami, chacun aimait sa propre âme. Plus on demande à l'amitié un style élevé, moins il est facile naturellement de l'établir avec la chair et le sang. Nous marchons seuls dans la vie. Des amis, tels que nous en désirons, sont des rêves et des fables. Mais un sublime espoir anime à jamais le cœur fidèle qu'ailleurs, en d'autres régions de l'universel pouvoir, des âmes en ce moment agissent, endurent et osent, lesquelles nous peuvent aimer et que nous pouvons aimer. Nous pouvons nous féliciter de ce que la période de minorité, de folie, de bévue et de honte se passe dans la solitude, et quand nous serons des hommes accomplis, des mains héroïques se serreront. Soyez seulement avertis par ce que vous voyez déjà de ne pas vous lancer dans des amitiés avec des personnes de peu de valeur quand il ne peut pas y avoir d'amitié. Notre impatience nous fait tomber dans des alliances inconsidérées et sottes que nul dieu ne contemple. En persistant dans votre voie, encore que vous perdiez peu de choses, vous gagnez le tout. Vous vous démontrez vous-même comme vous mettant hors d'atteinte de fausses relations et vous attirez les premiers-nés du monde, ces rares pèlerins dont quelques-uns seuls errent tout de suite dans la nature et devant qui le vulgaire ne paraît être que spectre et combre. Insensée est la crainte de rendre nos liens trop spirituels, comme si nous pouvions ainsi perdre quelque ingénuité. La nature ne manquera pas d'affirmer toute correction intérieure de nos vues, et si elle semble nous frustrer de quelque joie, elle nous dédommagera par une joie plus grande. Éprouvons, si nous le voulons, l'isolement absolu de l'homme. Nous sommes sûrs d'avoir tout en nous-mêmes. Nous allons en Europe, nous suivons des personnes ou nous lisons des livres dans la foi instinctive que cela nous révélera à nous-mêmes. Mendicité. Les personnes sont telles que nous. L'Europe, un vieux vêtement fané de personnes mortes. Les livres, leurs fantômes. Laissons tomber cette idolâtrie. Renonçons à cette mendicité. Disons même adieu à nos plus chers amis et défions-les, disant « Qui êtes-vous? Desserrez ma main de la vôtre. Je ne veux plus être dépendant. » Ah, ne vois-tu pas, ô frère, que nous ne nous quittons ainsi que pour nous revoir quand nous serons plus haut et n'être que plus l'un à l'autre? Parce que nous serons plus à nous-mêmes. Un ami est un second Janus. Il regarde le passé et l'avenir. Il est l'enfant de mes heures écoulées, le prophète de celles à venir et le précurseur d'un plus grand ami. Je fais alors avec mes amis comme avec mes livres. J'aime à les avoir où je peux les trouver, mais j'en use rarement. Mettons notre société à condition. Donnons-la ou retirons-la pour la plus légère cause. Je ne peux pas dépenser beaucoup de paroles avec mon ami. S'il est grand, il me grandit tellement que je ne peux m'abaisser à la conversation. Dans les grands jours, des pressentiments voltigent devant moi dans le firmament. Je devrais alors me consacrer à eux. J'entre pour les saisir, je sors pour les saisir. Je crains seulement de pouvoir les perdre s'enfuyant dans le ciel où ils ne sont qu'une lueur plus brillante. Alors, encore que j'attache du prix à mes amis, je ne peux pas me permettre de parler avec eux et d'étudier leur vision de peur de perdre les miennes. Cela me donnerait, il est vrai, une certaine joie confortable de quitter cette sublime recherche, cette astronomie spirituelle, cette perquisition d'étoiles, et de revenir à de chaudes sympathies. Mais alors, je sais bien que je pleurerai toujours la disparition de mes dieux forts. Il est vrai que la semaine prochaine, je serai d'humeur languissante quand je pourrai m'occuper d'objets étrangers. Alors, je regretterai la littérature de votre âme et je souhaiterais vous voir revenir auprès de moi. Mais si vous venez, peut-être n'emplirez-vous mon esprit que de nouvelles visions, non de vous, mais de vos splendeurs, et je ne serai pas plus en état que maintenant de causer avec vous. Ainsi, je dois à mes amis ces communications passagères. Je reçois d'eux non ce qu'ils ont, mais ce qu'ils sont. Ils me donnent ce qu'à proprement parler, ils ne peuvent donner, mais qui émane d'eux. Mais ils ne me retiendront pas par quelques relations moins subtiles et pures. Nous nous retrouverons comme nous ne nous retrouvons pas, et nous nous quitterons comme nous ne nous quittons pas. Il m'a semblé dernièrement plus possible que je ne le savais de conduire une amitié glorieusement d'un côté sans due correspondance de l'autre. Pourquoi me désolerais-je à regretter que le destinataire soit indifférent? Le soleil n'est jamais troublé parce que quelques-uns de ses rayons tombent infinis et vains dans l'espace ingrat et seulement une faible partie sur la terre. Que l'exaltation de votre orgueil instruise le sauvage et froid compagnon. S'il est inférieur, il passera son chemin. Mais tu es agrandi par ton propre éclat. Et cessant d'être un compagnon pour les grenouilles et les vers de terre, tu prends ton essor et brûles avec les dieux de l'Empyrée. C'est considéré comme un malheur d'aimer sans être aimé. Mais les grandes âmes verront que l'affection vraie ne peut pas ne pas être payée de retour. La vraie affection s'élève au-dessus de l'objet indigne. Elle s'appuie et s'étend sur l'éternel. Et quand le pauvre masque interposé tombe en morceaux, elle n'est pas triste, mais elle se sent délivrée d'autant de poussière et sent son indépendance plus certaine. Toutefois, ces choses peuvent à peine se dire sans une sorte de trahison à l'amitié. Son essence est la parfaite entente, une magnanimité et une confiance totale. Elle ne doit pas soupçonner ni se prémunir de l'infirmité. Elle traite ses objets comme des dieux afin de diviniser l'un et l'autre. Une goutte de sang vermeil a plus de poids que les flots de la mer. L'univers incertain va et vient, mais l'être primordial demeure. Je me suis imaginé qu'il avait fui, et après de nombreuses années, la bienveillance inépuisable a résonné comme le lever du soleil quotidien. Et mon cœur n'avait plus d'inquiétude. Ô ami, dit mon âme, à travers toi seul la voûte azurée s'éclaire, par toi la rose est rouge. Toutes choses par toi prennent une beauté plus noble et regardent au-delà de la terre.